France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Les conséquences de la condamnation de Nicolas Sarkozy. Les élus locaux craignent de voir leur image encore dégradée. Nous les écouterons quand les avocats de l'ancien président, eux, se projettent désormais vers l'appel. Tout cela regardé de très près par nos voisins européens. Nous serons en Italie. À suivre encore, le grand ordonnateur de la musique classique en France, René Martin, en retrait de la folle journée de Nantes, soupçon de harcèlement. Des émeutes à Madagascar. Les manifestations contre les coupures d'eau et d'électricité ont dégénéré. Nous serons également en Ukraine, où l'on tend des filets au-dessus des routes pour se protéger des drones.
Il y a un drone qui vole, il a des hélices. S'il arrive sur ce filet, il s'en mêle. Bien sûr, il peut exploser, mais tu as quelques secondes pour t'éloigner.
Reportage à suivre, sans oublier en France ces chauffages qu'on rallume, il fait froid, nous serons en Dordogne, et une navigatrice pour la première fois sur le podium de la solitaire du Figaro. À partir de 13h30, 40 ans jour pour jour, après l'appel de Coluche, l'un de ses fils, Romain Colucci, est notre invité. Il a repris le flambeau au Resto du Cœur, bénévole parmi tant d'autres.
Il me fascine totalement les bénévoles, ils donnent tellement de temps, ils donnent tellement d'énergie. Quand les gens sont dans la misère, ils font tout ce qu'ils peuvent. Et ils sont complètement dingues, quoi.
Romain Colucci nous parlera de cet héritage. 13h45, notre feuilleton, le chantier de la basilique de Saint-Denis, vu par ceux qui l'aiment. Aujourd'hui, MC Solar.
Si on pouvait avoir l'aide de mécènes dans un geste d'égalité, c'est-à-dire être comme Paris, c'était au niveau mondial pour Notre-Dame, ce serait bien pour accélérer les choses.
13h50, c'est la France, un lieu hors du temps, massif du Mercantour, l'hôtel des pèlerins, raconté par Virginie Troussier. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, l'accordéoniste Vincent Perani, Claude Nougaro et Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Un ex-président de la République condamné à de la prison ferme est bientôt envoyé en prison. C'est une première. Et l'un des enjeux de ce jugement historique est de savoir comment il va être perçu par les Français, eux qui ont élu Nicolas Sarkozy en 2007, eux au nom de qui la justice a été rendue hier. Premier concerné, les élus locaux. Notre reporter Manuel Ruffet se trouve depuis ce matin au congrès des maires ruraux de France à Chasseneuil-du-Poitou.
Cette condamnation, c'est un sujet de conversation depuis ce matin. Il ne s'en cache pas, les centaines d'élus ruraux réunis ici. Chacun a son avis, souvent en fonction de son étiquette politique, mais tous sont d'accord sur un point. Les répercussions pour eux sur le terrain. Guy Piedefer est le maire d'une commune de 450 habitants en Dordogne.
Chaque fois qu'il y a un politique qui est interpellé pour quelque raison que ce soit, chaque fois ça retombe sur nous, même les plus petits maires des plus petits villages de campagne. Parce qu'on est tous pourris, on est tous énantis, voilà.
Jean-Claude Ponce est lui maire de Luxe-sur-Aude. Pour lui, ce type de procès, de renvoyer les élus au béaba de leur engagement.
Il faut qu'on soit exemplaire, et du bas de l'échelle, comme nous, simple maire, simple conseiller municipaux, jusqu'en haut, le président de la République, oui, bien sûr.
Et tous s'accordent aussi sur un point, tout cela est bien loin de leurs préoccupations quotidiennes. Daniel Barbe est le maire d'une commune de Gironde et vice-président de l'association des maires ruraux.
Nous, on a tous les jours notre boulot de maire et de trouver des solutions dans nos communes rurales. C'est pas simple. Aujourd'hui, commenter ce que la justice a fait, moi, non, je n'ai pas besoin de le commenter.
Il y a beaucoup d'élus en France, conclut Daniel Barbe. Nous sommes 35 000 maires, par exemple. Une infime partie peut se montrer malhonnête. Le problème, c'est qu'on ne parle que d'eux et ce n'est pas bon pour tous les autres.
Un reportage Manuel Ruffet. Avant de voir quelles sont les suites politiques, mais aussi judiciaires au lendemain de ce jugement, je voudrais qu'on aille à l'étranger. Beaucoup de journaux à travers le monde reviennent aujourd'hui sur cette condamnation. La photo du couple Nicolas Sarkozy, Carla Bruni Sarkozy sortant de la salle d'audience et ce matin à la une aux États-Unis du Wall Street Journal ou encore en Espagne du quotidien El País. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour.
Vous êtes en Italie, correspondant de France Inter à Rome. Chez vous aussi, l'affaire fait la une. Il faut dire qu'elle trouve un écho particulier.
La Bastille de Sarkozy, titre La Stampa, et en effet, l'ex-président étant une, même de certains quotidiens régionaux, rien ne va plus, écrit la Sicilia. Nous sommes au pays de Berlusconi, un très haut dirigeant qui amaille à partir avec la justice, on connaît, mais à propos du Cavaliere, perce un sentiment de revanche. Rira bien qui rira le dernier, écrit le journaliste conservateur Nicolas Porro sur son site, et il ressort une photo de 2011. Sarkozy et Angela Merkel sourient d'un air entendu à une question de journaliste italien sur Berlusconi. Photo aussi de Carla Bruni dans la presse et ce geste de dégoût souverain, écrit le Corriere della Sera, la bonnette arrachée du micro Mediapart au tribunal. Tout cela alors que la politique française traverse ses jours les plus confus, commente la Stampa. Dans un pays, l'Italie, où le débat sur la politisation des juges se poursuit depuis 30 ans, le vice-premier ministre d'extrême droite, Matteo Salvini, toujours le premier à taper sur les magistrats, n'a pas réagi cette fois-ci. Souvenir sans doute que les années Sarkozy n'étaient pas les meilleures au plan électoral pour l'extrême droite en France.
Bruno Duvic, en direct de Rome. Alors que va-t-il se passer maintenant? À mes côtés, Maxence Lambrecq et Sarah Guibaudot, chef des services politiques et police-justice d'Inter. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Maxence, commençons avec vous. Que va-t-il se passer à droite, pour l'instant, les leaders LR font le service minimum.
Et oui, personne ne relaie l'appel à la grâce présidentielle et vous n'entendez pas Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau remettre en cause le mandat de dépôt dont Nicolas Sarkozy a fait l'objet. Un simple témoignage d'amitié, pas une ligne de plus, on ne peut pas en rajouter, entend-on ce matin, place Beauvau. Bien sûr que ce jugement est catastrophique pour l'image de la France, qu'il alimente le trumpisme, les antisystèmes, mais chaque chose en son temps. Les politiques qui se défendent les uns les autres, c'est inaudible, complète un proche de Laurent Wauquiez, et ils se souviennent du meeting de Marine Le Pen qu'il avait organisé après sa condamnation et qui n'avait pas réuni les foules à Paris.
Et pour Emmanuel Macron, là, c'est carrément silence radio.
Bien oui, silence radio depuis 13h05. Hier, répondeur et message non lu, personne n'ose s'exprimer. Le chef de l'État a-t-il envoyé un message d'amitié à Nicolas Sarkozy? On le découvrira peut-être un jour dans un livre. À son agenda, aucune sortie publique. Il ne retrouvera la presse qu'à Copenhague mercredi prochain. Du côté d'Edouard Philippe, on perçoit une certaine gêne. Le porte-parole du groupe Horizon à l'Assemblée, Xavier Albertini, interroge le mandat de dépôt.
Ça me semble, en tout cas d'un point de vue strictement juridique, excessif par rapport à la dernière qualification qui était retenue. Peut-être que le législateur, alors pas dans l'émotion, pas dans l'immédiateté, devrait se poser un certain nombre de questions sur la réforme du code pénal et l'exécution des peines.
Comprenez, revenir sur l'exécution provisoire était aussi dans les plans du Premier ministre. Il doit s'exprimer ce soir chez nos confrères du Parisien et chaque mot sera pesé.
Quant à Nicolas Sarkozy, il connaîtra le 13 octobre la date de son incarcération, sans doute prison de la santé à Paris. Sarah Guibaudot, ses avocats vont maintenant analyser ce jugement pour préparer un nouveau procès.
Oui, ils avaient déjà épluché le dossier. Ils ont démontré, par exemple, que Nicolas Sarkozy ne pouvait pas s'être retrouvé en tête-à-tête avec Kadhafi sous la tente du dictateur. Dans sa plaidoirie, l'un des avocats a aussi relevé que lorsque l'argent libyen sortait des comptes de l'intermédiaire Ziad Takieddine, cela coïncidait avec l'achat d'un yacht ou des travaux dans sa villa. Cela ne servait pas forcément pour financer la campagne, dont aucun prestataire n'a confirmé qu'il aurait été payé en liquide.
Cela étant dit, tous ces éléments ont déjà été balayés par le tribunal.
Mais oui, et en écartant toutes ces pièces fragiles de l'accusation, il ne laisse dans le faisceau d'indices graves, précis et concordants que des éléments qui seront plus difficiles à contester en appel. Il y a des flux financiers vers Claude Guéant ou vers les intermédiaires, comme aussi Alexandre Djouri, reçu 28 fois à l'Élysée en 2008, ces rencontres occultes entre le numéro 2 du régime libyen et Claude Guéant, Brice Hortefeux, leurs explications à l'audience n'ont pas convaincu le tribunal et la faiblesse de leur défense vient plomber celle de Nicolas Sarkozy. C'est aussi la force de cette infraction, l'association de malfaiteurs, souvent utilisée pour le terrorisme ou les trafics et contestée par les avocats, car elle vient sanctionner la préparation d'un délit sans qu'il y ait besoin que le délit soit commis.
Merci à tous les deux, Sarah Guibaudot et Maxence Lambrecq. J'ajoute cette réaction ce matin de l'avocat et ancien ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Interrogé sur les critiques contre les juges venus depuis hier d'une partie de la droite et de l'extrême droite.
Les magistrats sont des êtres humains et ils ont des sensibilités politiques et vous ne pouvez pas leur interdire. Maintenant, le bon magistrat, c'est celui qui sait faire abstraction de ses opinions politiques pour bien juger. Et moi je dis que la très grande majorité des magistrats se comportent de cette façon-là. Nicolas Sarkozy, il sort, il parle de haine. Bon, c'est son ressenti. Moi, je ne vais pas commenter cela. Ce qui peut interroger, c'est le mandat de dépôt. Moi, j'attends de lire, avec beaucoup d'impatience, il est vrai, la justification qui est celle du tribunal pour ordonner le mandat de dépôt, l'exécution provisoire.
Éric Dupond-Moretti, invité de nos collègues d'Issinor ce matin.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
C'est un homme brisé qui a pris la parole ce matin à Lyon au procès du maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau. Gilles Artigue, son ancien premier adjoint à la barre, il est la victime présumée du chantage à la sextape. Mathilde Imberti, vous êtes à Lyon, vous suivez ce procès pour Inter. Gilles Artigue a finalement décidé de s'exprimer.
Et de manière factuelle précise, lorsqu'il déroule ses années de chantage, débutées un soir d'hiver 2015 dans une chambre d'hôtel. Un moment d'égarement avec un escorte, ce sont ses mots. J'ai voulu ce massage intime par curiosité, reconnaît l'ancien élu, plus théâtral, Gilles Artigue, lorsqu'il rejoue les échanges avec Gaël Perdriau. 2017, ils se sont opposés devant d'autres élus sur un choix politique. Le maire lui lance « Tu ne me le feras plus jamais, sinon je diffuse ». 2022, réunion glaciale. Le maire le force, selon son récit, à quitter son poste de premier adjoint pour être relégué à la délégation au cimetière. À ce moment, il a décidé de m'exécuter, tranche Gilles Artigue à la barre. « J'étais une marionnette », poursuit la victime. « J'ai pensé à me suicider. Si je commence à enregistrer certains échanges, c'est pour que ma famille ait une trace de ce que je subis. » Sur le banc des prévenus, les avocats de Gaël Perdriau relèvent que tous ces échanges n'ont pas été enregistrés. Essaient de démontrer qu'il n'y a pas eu de contrepartie concrète au chantage. Un chantage indéniable à écouter les traces sonores diffusées ces derniers jours dans la salle d'audience, créant parfois un grand malaise. Tout comme le malaise s'est installé lorsque la femme de Gilles Artigue se met à raconter comment elle a vu son mari, puis toute la famille s'éteindre, sans en comprendre la raison. Avant ce mois d'août 2022 et les révélations de Mediapart.
Mathilde Imberti à Lyon pour Inter. Impossible de faire sans lui dans la musique classique en France. Il programme des centaines de concerts, sans parler des festivals qu'il dirige comme la Folle Journée de Nantes. René Martin se met en retrait du festival nantais. Sa décision fait suite à des témoignages de salariés qui dénoncent un management brutal et une ambiance hyper sexualisée au sein de la structure qu'il dirige, Stéphane Capron.
Ce sont plusieurs enquêtes parues dans la presse spécialisée qui ont révélé une ambiance toxique dénoncée par une vingtaine de salariés. Ils évoquent des humiliations et un système d'emprise. Des femmes interrogées témoignent de regards insistants sur leur corps, de remarques sur leurs jupes et leurs décolletés. Les enquêtes révèlent aussi des dépenses personnelles réalisées avec le budget de l'association, comme un séjour luxueux dans une villa avec piscine. René Martin, 75 ans, s'est rendu incontournable dans le monde de la musique classique. Il est à la tête de 14 festivals en France et assure la tenue de près de 1500 concerts tous les ans. Johanna Roland, la maire de Nantes, a pris position hier soir dans un communiqué sur le réseau X. Quand il est question de violences sexistes et sexuelles, on ne peut transiger, on le doit aux victimes, explique-t-elle. Elle a demandé un audit rapide pour tirer toutes les conséquences des accusations des salariés du Créa.
Précision signée Stéphane Capron. Il est soupçonné d'avoir escroqué l'acteur Danny Boone à hauteur de 5 millions d'euros. Un homme de 36 ans qui se faisait passer pour un lord irlandais est jugé à Nice aujourd'hui. Il a reconnu les faits. Il avait déjà été condamné pour escroquerie en 2019. Ils se sont levés bientôt, ils en ont l'habitude, pour protester une nouvelle fois contre le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud, le Mercosur. Les agriculteurs, dans les rues de plusieurs villes de France ce matin, mobilisation modeste, par exemple à Lodève, dans l'Hérault, à Torvilliers, dans l'Aube, ou encore à Versailles, où vous étiez ce matin. Bonjour Mariam El Kurdi.
Bonjour.
Ils étaient une centaine à l'appel des syndicats FNSEA et Jeunes Agriculteurs, Versailles, devant l'entrée du château.
Oui, et s'ils ont choisi l'entrée du château de Versailles pour garer une vingtaine de tracteurs, c'est surtout pour le symbole. Sur la pancarte accrochée à une fourche de Thierry Desforges, vice-président de la FDSEA d'Île-de-France, 1789-2025, rien n'a changé, les paysans crèvent la faim.
Chaque hectare cultivé constitue une perte. Il n'y a plus une culture qui est rentable aujourd'hui parce que soit on n'a pas les moyens de production qui nous permettent d'atteindre des rendements, qui nous permettent d'être compétitifs sur les marchés internationaux, soit les prix sont tellement dégradés qu'en fait il n'y a plus de compétitivité.
Et cette nouvelle mobilisation intervient à une période hautement sensible pour l'agriculture française. La France s'apprête pour la première fois en près de 50 ans à voir sa balance commerciale agricole basculer dans le rouge. Alors l'étincelle du Mercosur vient raviver la colère à la tribune montée à l'aide de bottes de foin.
On va perdre notre souveraineté alimentaire. On est en train de brader notre agriculture. Et quand on voit en parallèle, on signe le Mercosur, qu'on va faire rentrer 180 000 tonnes de sucre. C'est l'équivalent de la production française de sucre au niveau européen. On va crever.
Sur place, le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, interpelle le chef de l'État.
On a de moins en moins d'alimentation française dans nos assiettes. Il faut qu'on nous dise clairement, est-ce que oui ou non, on veut éteindre l'agriculture française et faire comme on a fait pour l'industrie il y a maintenant 30 ans, ou alors est-ce qu'on veut réagir ? Je suis désolé, je vous laisse, c'est la ministre.
La ministre Annie Genevard qui justement l'appelle sur son téléphone au moment où il sollicite un rendez-vous avec le Premier ministre Sébastien Lecornu.
Merci Mariam El Kurdi. C'était il y a deux semaines des heures de galère pour les voyageurs de la ligne SNCF Paris-Lyon à cause de vols de câbles. Deux hommes viennent d'être mis en examen dans cette enquête. L'un d'eux a été incarcéré. Le vol Paris-Antananarivo d'hier soir n'a jamais atterri à Madagascar, dérouté vers l'île Maurice en raison de la journée de violence qui a secoué la capitale malgache. Plusieurs milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour protester contre les coupures d'eau et d'électricité qui se multiplient. Mais la contestation hostile au régime a tourné à l'émeute avec des pillages. Les forces de l'ordre ont été débordées. Les raisons de la colère avec Nathanaël Charbonnier.
Oui, c'est un cocktail explosif et connu. Pauvreté, corruption, jeunesse en colère, réseaux sociaux, tous les ingrédients sont là pour allumer le feu de la contestation. Tout est parti d'un appel à manifester sur Internet pour protester contre les incessantes coupures d'eau et d'électricité dans le pays, en moyenne 12 heures par jour. Conséquence, cette grogne de plus s'est transformée en chaos, avec la réponse que l'on imagine des forces de l'ordre qui ont riposté avec des trombes de gaz lacrymogène, avec des tirs de balles en caoutchouc et une violence sans retenue, y compris contre les journalistes qui couvraient la manifestation. Il faut dire qu'en dépit de ses richesses naturelles exceptionnelles, Madagascar reste l'un des pays les plus pauvres de la planète. Près de 75% de la population vivait sous le seuil de pauvreté en 2022, d'après la Banque mondiale. Le pays est rongé par la corruption, les dirigeants politiques sont montrés du doigt, les domiciles de plusieurs parlementaires proches du pouvoir, ont d'ailleurs été embrasés.
Et toutes les écoles de la ville d'Antananarivo sont fermées aujourd'hui, précision Nathanaël Charbonnier. Faut-il exclure Israël des événements sportifs et culturels? Deux réponses à cette question ce matin. D'abord, celle du président de l'Union cycliste internationale, David Lapartient. Le sport ne doit pas être un outil de sanction, dit-il, en marge des championnats du monde de cyclisme au Rwanda. Là, il s'agit d'une compétition musicale, l'Eurovision. Plusieurs pays, dont l'Espagne, demandent à ce qu'Israël en soit banni en raison de la guerre à Gaza. Bonjour Julien Baldacchino.
Bonjour.
Eh bien, ces pays européens vont voter.
Oui, la présidente actuelle de l'Union européenne de radiodiffusion, Delphine Ernotte, qui est aussi présidente de France Télévisions, a prévenu hier dans une lettre tous les directeurs généraux des chaînes de télévision qui sont membres. Une réunion extraordinaire va avoir lieu en ligne début novembre et elle débouchera sur un vote autour de l'exclusion du diffuseur israélien, la chaîne Kan, du concours. Jusqu'à présent, il était question que le sujet soit abordé à la prochaine Assemblée Générale de l'UER en décembre. La discussion est donc avancée avec un scrutin dédié. Les organisateurs reconnaissent qu'il y a une diversité d'opinions sans précédent parmi les pays membres et que cela nécessite une base démocratique plus large.
Y a-t-il, Julien, une réelle possibilité qu'Israël soit exclu ?
Alors pour l'heure, il n'y a que 5 diffuseurs sur 68 membres de l'UER qui ont explicitement exprimé leur opposition et menacé même de se retirer du concours si Israël était maintenu. Mais là, les règles sont légèrement différentes. En Assemblée Générale, l'exclusion définitive d'un pays nécessite 75% de voix. Là, en novembre, le vote portera uniquement sur l'Eurovision 2026 et devrait être plutôt à la majorité des suffrages.
Julien Baldacchino, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, lui s'exprimera cet après-midi à la tribune de l'ONU. Hier, c'est le président américain Donald Trump qui l'a mis en garde. Je ne permettrai pas à Israël d'annexer la Cisjordanie. Cela n'arrivera pas. Fin de citation. Les alertes aux drones se succèdent dans le ciel danois. Un nouvel aéroport a dû fermer la nuit dernière. Copenhague parle d'une attaque hybride d'origine inconnue, même si la première ministre danoise dit suspecter la Russie. Confrontés à cette même menace, les Ukrainiens, eux, sont en train de déployer des filets anti-drones au-dessus des routes qu'empruntent leurs militaires. Système D contre technologie. C'est un reportage dans l'est de l'Ukraine de nos envoyés spéciaux. Simon Le Baron, Gilles Gallinaro, Yachar Fazilov.
C'est une sorte de tunnel qu'Igor et ses camarades fabriquent avec les moyens du bord.
On enfonce un bout de bois dans le sol. On attache à un poteau de 6 mètres avec du fil de fer. Et au-dessus, on tend un filet, comme celui qu'on utilise pour faire pousser les cornichons.
Dans la région, plusieurs routes sont déjà coupées ou partiellement contrôlées par les drones ennemis. Alors il faut agir maintenant.
C'est la seule route où l'on peut travailler. La route entre Sloviansk et Izium est sous le feu des Russes. Il faut anticiper tant que le front n'a pas trop avancé.
Appuyé sur sa canne, Ivan, blessé au combat en 2023, explique le principe.
Il y a un drone qui vole, il a des hélices. S'il arrive sur ce filet, il s'en mêle. Bien sûr, il peut exploser, mais tu as quelques secondes pour t'éloigner.
Mais si le système est efficace contre les petits engins kamikazes, il est inutile face aux drones plus gros. Au volant, Dima, qui va voir ses parents à 10 km, est plutôt sceptique.
Je suis électricien sur les lignes à haute tension. Je vais là où c'est chaud. Ces filets ne protègent pas toujours.
La preuve, quelques kilomètres plus loin, un cratère et la carcasse d'un camion encore fumante.
Reportage Simon Le Baron. En Ukraine pour Inter, c'est avec la circulation à gauche l'une des nombreuses singularités du Royaume-Uni, l'absence d'une carte nationale d'identité comme on la connaît en France. D'où l'importance de l'annonce faite ce matin par le Premier ministre britannique. La création, d'ici 2029, d'une carte d'identité numérique essentiellement pour lutter contre le travail illégal. Gaëlle Joly est notre correspondante à Londres.
Ce document stocké sur les téléphones deviendra obligatoire pour pouvoir travailler dans le pays. Keir Starmer assure dans un communiqué que ce plan servira à combattre les réseaux criminels qui promettent un accès au marché du travail britannique pour profiter des traversées dangereuses et illégales de la Manche. Dans une interview accordée au journal The Telegraph ce matin, le Premier ministre a reconnu que le Parti travailliste s'était trompé sur la question de l'immigration, avait trop longtemps évité la question et ignoré les craintes des citoyens britanniques. Plusieurs fois, la France a dénoncé l'absence de ces cartes officielles qui constituent, selon elle, un facteur d'attraction. L'annonce fait débat ici car il n'existe pas de carte d'identité et les défenseurs des libertés civiles montent déjà au créneau. Nigel Farage, le chef de file du parti d'extrême droite Reform UK en tête dans les sondages, a assuré qu'il s'opposerait à ces cartes d'identité. Cela ne changera rien à l'immigration clandestine, écrit-il dans un tweet, juste à contrôler et à pénaliser le reste de la population. À Londres, Gaëlle Joly, France Inter.
Londres où il faisait 14 degrés en fin de matinée. Quand on ne dépassait pas les 11 à Lyon, les 13 à Tours, bref, il fait frais, voire froid, 6 degrés relevés au plus bas à Bergerac, hier en Dordogne, où les températures devraient encore baisser. Les 30 degrés de la semaine dernière sont bien loin et beaucoup d'habitants ont rallumé leur chauffage ces dernières heures, comme l'a constaté Thibaut Delmarle.
Dans sa maison à Verre, Daniel a rallumé le poêle à granulés.
Oui, avant-hier, juste le temps de réchauffer la maison. C'est vite chaud, hein. Avant de rallumer la pompe à chaleur, ça va très bien, ça.
C'est la première fois qu'elle l'allume aussitôt.
Oui, d'habitude, c'est plutôt fin octobre, hein. fin octobre.
Et les granulés, c'est pratique, ça chauffe vite, et selon Daniel, ce n'est pas trop cher.
5,80€ les 15 kilos. On en a pour 3-4 jours d'un sac, donc ça va.
À Salon, juste à côté de Verre, Nathalie habite dans une grande et ancienne ferme. Elle a rallumé la chaudière au fioul depuis le début de semaine.
On était aux alentours de 15-16 dans certaines pièces. Pas toutes, c'est toujours pareil, c'est des vieilles maisons. Hein. Et c'est surtout l'humidité qui rentrait, c'est pas agréable quoi.
Joël et Sylvie boivent un café bien chaud devant le bar de la commune. Un bon manteau et une écharpe autour du cou, mais pas question de rallumer le chauffage à la maison.
Oui, il fait frais le matin, mais on se couvre un peu. On rajoute une couverture, hein, c'est pas grave. Hein.
Ouais, peut-être un petit peu plus, mais ça va encore. C'est pas les grands frimas. Hein.
Et ils ont regardé la météo. Les matinées seront moins fraîches la semaine prochaine.
Reportage ici Périgord et les prévisions météo complètes avec Élodie Calac dans quelques minutes. Vous connaissez bien sûr Wikipédia, l'encyclopédie libre en ligne. Voilà un Wikipédia pour mettre en valeur l'histoire locale, celle de nos territoires. C'est l'initiative lancée par les Yvelines il y a quelques mois. Le dispositif s'appelle le Lab. C'est un espace collaboratif qui est dédié à l'histoire du département pour mettre les archives départementales à disposition et permettre à tous de contribuer. L'initiative est unique en France, Paul Florequin.
Des cartes, des textes et des journaux historiques, c'est le décor habituel du bureau de Romain Dugas, chargé de mission au centre des archives. Mais la nouveauté aujourd'hui se trouve dans son ordinateur.
Alors là, sur mon écran, on peut voir le Lab, qui est le wiki des archives départementales.
Un site simple avec trois grandes catégories, des personnes, des événements ou des lieux des Yvelines. Il clique sur une histoire de pénurie.
Des cloches pendant la guerre 39-45, des cloches qui ont pu être fondues suite à des réquisitions de métal pendant la guerre. Donc c'est aussi tout l'intérêt, se perdre en découvrant des articles sur des thématiques qu'on ne soupçonnait pas.
Des articles écrits par des inconnus, en général férus d'histoire ou de généalogie.
Nous allons retourner sur la page d'accueil.
Plus de 500 articles ont vu le jour en 3 mois, mais attention, on ne peut pas écrire n'importe quoi.
L'intérêt, c'est quand même qu'il y ait véritablement un lien avec l'histoire locale. Si votre grand-père n'a pas eu d'action qui contribue à l'histoire, j'allais dire, du département, il n'y a pas d'intérêt à créer un article.
Objectif du site, faciliter notamment les recherches des étudiants, des chercheurs ou des associations historiques des Yvelines. L'équipe de Romain Duga fait de la veille tous les jours.
C'est sûr qu'on va les relire, puisqu'on apporte une certaine caution scientifique. On va pouvoir modifier l'article si besoin.
À terme, le Centre des Archives souhaite organiser des concours d'écriture pour améliorer encore plus ce Wikipédia local.
La persévérance et la fougue récompensées la nuit dernière à l'arrivée de la solitaire du Figaro. C'est le navigateur Alexis Loison qui s'est imposé pour sa 19e tentative, d'où la persévérance. La fougue, c'est celle de Charlotte Yvain qui, à 28 ans seulement, prend la 2e place. La navigatrice originaire de Morlaix est tout simplement la première femme à monter sur le podium de la solitaire du Figaro en 56 éditions.
Déjà de réussir à faire un podium en Figaro, enfin sur la solitaire du Figaro, c'est déjà assez ouf, donc je vais essayer de réaliser ça et de bien en profiter. C'était vraiment une super course. J'avais dit en partant que je voulais faire au moins aussi bien que l'année dernière, bah, je crois que c'est réussi. Je me sentais bien sur mon bateau, il était bien préparé. J'ai réussi à bien tout aligner cette année pour faire la meilleure perf que je pouvais. C'était super chouette de se bagarrer pendant toutes ces étapes. Bah notamment avec Alexis, mais avec les autres aussi, et notamment même avec les bisous qui poussent fort, c'était vraiment chouette. Et bon, voilà, sur la 3e étape, il est parti devant et il a laissé aucune porte s'ouvrir, donc c'était injouable, mais très contente d'avoir réussi à garder la 2e place quand même.
Charlotte Yvain, retenez bien son nom, interrogé la nuit dernière par Issy Cotentin. J'ajoute cette mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui va perdre son capitaine Marquinhos, blessé, qui sera absent des terrains pendant plusieurs semaines. 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à 13h30, les 40 ans des Restos du Cœur. 40 ans jour pour jour après l'appel de Coluche. L'association n'a jamais distribué autant de repas. Alors peut-on vraiment fêter cet anniversaire? L'un des deux fils de Coluche, Romain Colucci, est notre invité. Il va nous parler de cette histoire et de son engagement. 13h45, notre feuilleton sur le chantier de la basilique de Saint-Denis. Qui veut retrouver sa flèche aujourd'hui? Nous sommes avec le rappeur MC Solar. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Virginie Troussier et Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Virginie, vous nous emmenez dans un refuge.
Oui, un refuge fermé depuis 5 ans a rouvert ses portes cet été dans le Mercantour. L'hôtel des pèlerins nous rappelle que la montagne est une aventure, une rencontre avec le sauvage.
Et avec vous Frédéric, un accordéoniste.
Accordéoniste et clarinettiste de jazz, il s'agit de Vincent Perani. Son nouvel album, le 15e, sort aujourd'hui et avec lui, c'est Claude Nougaro que nous écouterons, un chanteur dont la voix a bercé son enfance.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Amélie Nothomb, votre nouveau livre, tant mieux. Roman ou histoire vraie?
C'est un conte. Dans ce livre, je raconte la vie de ma mère. Mais tout a l'air tellement exagéré dans sa vie que seule la forme du conte permettait de raconter l'invraisemblable.
Pourquoi ce titre, tant mieux?
Ma mère a surmonté tous les traumatismes de l'enfance grâce au pouvoir du tant mieux. Le tant mieux, c'est l'optimisme paradoxal. Tout va mal, donc on décide que tout va bien. Le tant mieux, c'est la version joyeuse du sang-froid.
Tant mieux d'Amélie Nothomb, un roman Albin Michel.
Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire Français comme bénéficiaire de votre assurance vie?
Oui, et j'ai souscrit une assurance vie en faveur du Secours Populaire. Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire auprès des personnes qui en ont le plus besoin, près de chez moi, en France et dans le monde.
Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre.
France Inter, partenaire de la Fiesta des Suds. La Fiesta des Suds prolonge l'été indien. Pour sa 34e édition, le festival marseillais vous touchera en plein cœur avec Kassav, Morshiba, Youssoupha, Kezia Jones, Double, Chege, Enchanté Julia et bien d'autres. Rendez-vous du 9 au 12 octobre à Marseille sur l'esplanade Gisèle Halimi pour secouer le dance floor, la tête dans les étoiles, la mer pour horizon. La Fiesta des Suds, un événement France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso fabriquées en France et ses doses en papier naturel. À retrouver sur malongo.com.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Encore frais et parfois pluvieux dans l'Est.
Oui, sur une grande partie nord jusqu'au massif central, beaucoup de nuages, quelques pluies plus nombreuses en effet de la Champagne et de l'Alsace vers le nord des Alpes, un peu de neige vers 2000 mètres, des éclaircies plutôt belles sur l'ouest de la Bretagne tout de même, ça s'éclaircit timidement aussi sur les Hauts-de-France, quelques éclaircies sur les Charentes, le Poitou, le Nord-Aquitaine, du soleil du sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées vers les régions méditerranéennes. Notez tout de même un ciel plus nuageux sur le nord de la Corse avec quelques averses. Une ambiance toujours fraîche pour la saison, pas plus de 13 à 17 degrés sur un grand quart nord-est, 17 à 20 près de l'océan et sur le sud-ouest, jusqu'à 22 en Méditerranée et 25 en Corse. Le temps va s'améliorer pour le week-end avec davantage d'éclaircies, des températures qui vont remonter doucement vers les valeurs de saison l'après-midi, mais des matinées encore bien fraîches. Patience, ça ira mieux la semaine prochaine.
Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter, de 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Romain Colucci.
Bonjour Jérôme Cadet.
Merci de nous recevoir ici, chez vous, moi ainsi que les auditeurs du 13-14 de France Inter pour évoquer ce 26 septembre 1985, le jour où votre père lança sur les ondes d'Europe 1 cet appel à la générosité. Vous vous souvenez de ce jour, vous souvenez de cette époque, vous aviez quoi, 12-13 ans
Oui c'est ça, moi j'avais 13 ans, ouais 12-13 ans, c'est ça. Et je me souviens pas de ce jour-là en particulier, je me souviens de l'ambiance qu'il y avait à la maison à ce moment-là. Voilà, je me souviens de ce que ça a changé quand même un peu à la maison, c'est-à-dire qu'il y avait quand même toujours une ambiance très très effervescente chez nous, mais avec des problématiques qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Par exemple, une grande question, ça pouvait être pourquoi la VMAX, la moto VMAX de Jean-Luc Lahaye va plus vite que celle de Michel, qui est exactement la même. Réponse à laquelle, enfin, Michel a apporté une réponse à cette question, c'est qu'un soir il est venu manger à la maison Jean-Luc Lahaye et il a changé les plaques. Voilà. Donc ça, c'était des questions fondamentales qui pouvaient se poser chez mon père. Et quand les Restos du Cœur sont arrivés, on a senti qu'il y avait un changement de nature sur les questions fondamentales qui se posaient à la maison.
C'est-à-dire que l'ambiance est devenue moins légère, elle était beaucoup plus à la rigolade.
C'est ça, c'était pas le même public, on va dire, qu'appelait. Le téléphone crépitait et la maison s'est transformée en tour de contrôle, en fait. On avait un téléphone avec plusieurs lignes, avec des boutons, et toutes les lignes... Sonnait, et il y avait une ambiance très, très studieuse et très, très sérieuse tout d'un coup, avec quand même de l'humour derrière, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le jour de la création, ce fameux 26 septembre 1985, c'est le lendemain du mariage avec le Luron. Donc il y avait encore, l'humour n'était pas très loin derrière.
On est passé de cette ambiance potage bouffonne à une certaine forme de gravité, en tout cas la solidarité. C'est dans la voix de votre père, on est le 26 septembre 1985.
On a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de courriers de chômeurs. Et j'ai eu une petite idée comme ça. Si des fois, il y a des marques qui m'entendent, qui sont intéressées par sponsorer une cantine gratuite, nous, on est prêts à aider une entreprise comme ça.
Il s'agit d'apporter un petit peu de bonheur à ceux qui en manquent le plus, que les boulangers donnent leurs excédents de pain, que les restaurateurs donnent leurs excédents de bouffe, de manière à fabriquer d'autant plus de repas. Et je pense que tout le monde peut faire ça.
Est-ce que ça, c'est une idée qui était déjà un peu dans l'air ou dans l'esprit de la famille, finalement, de redistribuer des choses qu'on avait en trop, de partager, avant que cet appel il parte vers le grand public.
Oui, c'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire que le fait de nourrir énormément de personnes, c'était dans le quotidien de mes parents, parce que la rue Gazan, vous n'avez pas connu cette époque, et c'est difficile d'expliquer aux auditeurs, mais il pouvait y avoir 20, 30, 40 personnes à table tous les soirs. Donc on était déjà dans une idée de partage très, 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 très vaste. Mais là, on passe quand même, avec les Restos du Cœur, à une autre dimension. Et c'est ça, moi, qui me fait rire quand j'entends cet extrait. Je sais pas si ça vous marque, mais il propose quand même, on est sur l'antenne d'Europe 1, qui est une radio privée, il propose quand même de faire de la publicité gratuite pour des annonceurs. Donc, c'est-à-dire qu'en direct, il détourne la régie publicitaire d'Europe 1, c'est-à-dire son mode de vie, son moyen de se financer. Donc je pense qu'il y a des directeurs qui ont dû avoir les cheveux qui ont poussé de toutes les couleurs et dans tous les sens quand ils ont entendu ça, parce que c'est normalement c'est pas possible. On peut pas faire ça. On peut pas dire dans une radio privée qui vit de la publicité, je vais faire de la publicité gratuite pour mon association. Je pense qu'il préfère ça plutôt que d'aller chercher l'aide de l'État parce qu'il veut l'indépendance politique. Il veut pas vendre son âme. Et je crois que ça, c'est ce qu'il a réussi à faire de mieux, c'est qu'en passant directement avec le public comme support, comme soutien au Resto du Cœur, il a réussi à passer au-delà de la tutelle politique et au-delà de la nécessaire soumission que cette tutelle impose.
Juste pour dire que ça prend très vite. L'association, elle est créée juste après, c'est le 14 octobre. Le 9 novembre, le premier local des restos est inauguré à Lille. Il y a beaucoup de villes qui suivent. Comment vous expliquez que ça prenne tout de suite ?
Alors, il y a une bonne raison et ça s'appelle les médias. Jérôme Cadet, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. C'est un truc, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais mon père, il avait donc été candidat à la présidence de la République. Et pendant cette période-là, il avait été censuré. Une censure politique. C'est-à-dire que les ministres compétents avaient appelé les journalistes compétents pour leur dire on ne reçoit plus Coluche. Voilà. Et ça, c'était, sa campagne s'était arrêtée à ce moment-là.
C'était dans l'optique de la présidentielle 1981.
Absolument. Et je crois que les médias s'en sont souvenus, si vous voulez. Et il y avait quand même un changement de régime politique à cette époque-là. L'alternance était arrivée, la gauche était arrivée au pouvoir. Et je crois que la presse s'est souvenue et les médias s'en sont souvenus que c'était pas nécessaire de censurer Coluche une deuxième fois. Et quand il a lancé son appel sur Europe 1, il y a beaucoup d'autres collègues, d'autres radios, d'autres médias qui ont très très vite relayé le message de Coluche. Et les gens aussi ont réagi hyper vite, quoi. Le public, vous savez, au départ, c'est un message d'un auditeur qui dit « C'est très très beau de chanter pour l'Éthiopie, mais l'argent, il part à l'étranger. Qu'est-ce que vous faites pour les chômeurs ?» Donc il y avait quand même aussi une demande du public. Et la réaction, elle était très très forte. Et moi, j'ai tendance à dire que les 12 ou 13 ou 16% de gens qui avaient l'intention de voter Coluche en 81, ils sont revenus tout de suite aussi sur le projet des Restos du Cœur. Et c'est eux qui ont fait la base de donateurs et de bénévoles.
Je parlais de la politique, je crois que c'est début 1986, votre père va au Parlement européen avec sa salopette pour demander...
C'est mieux que ça.
Sans doute, et manifestement ça a fonctionné, pour demander que les surplus de la politique agricole commune soit versée et puisse être redistribuée, c'est ça ?
C'est ça. Parce qu'en fait, il avait pigé un truc que les gens ne savaient pas, c'est qu'on avait des énormes quantités de surplus qu'on gardait, qui nous coûtaient un fric dingue en plus, parce que c'était des frigos géants, et ça coûtait très très cher, et tout ça était payé par nous, mais ne nous servait pas. Jamais. Et donc il a dit, mais pourquoi on paye d'abord, et pourquoi on ne peut pas l'utiliser alors que c'est à nous ? Ensuite. Et donc, effectivement, il a été poussé les portes des frigos de la communauté européenne pour avoir ces fameux surplus gratuits qui ont permis aussi d'aider au démarrage des Restos du Cœur. Parce qu'il faut bien dire que les restos, quand ils commencent, il n'y a rien. Michel, il n'a rien. Mais rien de chez rien. Il n'a pas de logistique, il n'a pas de camion, il n'a pas de locaux, il n'a pas de statut, il n'a pas de bénévoles, il n'a pas d'argent. Alors, donc, voilà, expérience professionnelle.
Il a sa notoriété.
Il a sa notoriété et c'est tout. Voilà.
Et son bagou et ses convictions.
Voilà. Il a cet accès direct au public et un micro. Et grâce à ça, il dit on y va. Mais honnêtement, tout le monde est surpris parce qu'il n'a même pas de culture de l'agroalimentaire, si vous voulez. C'est là que les gens vont arriver. C'est incroyable, quoi. Ils appellent la régie d'Europe 1, et ils disent « C'est combien rue François 1er ?» Parce que j'arrive, j'ai 38 palettes là à vous déposer. Et il va falloir tout inventer. La logistique, les statuts, le bénévolat, tout est à faire. Il est parti avec rien. Et le premier hiver, en partant de rien, c'est-à-dire d'une utopie, d'une petite idée, ils ont distribué 8,5 millions de repas.
Il y a ces bénévoles, il y a aussi très vite... l'idée, avec d'autres artistes, de se mobiliser pour faire appel à la générosité. Je crois que c'est Daniel Balavoine, Jean-Jacques Goldman, Yves Montand aussi, qui sont parmi les premiers. Vous vous souvenez de ça ? Il y a des réunions à la maison. Vous vous souvenez comment
ça
se met en place ?
Il y a des réunions à la maison. Et les artistes, ils sont très, très rapides. Ils sont tout de suite là. Ils répondent présents. Michel Sardou, Alice Donna, Daniel Balavoine. Il y a Jean-Jacques Goldman. Il y a cette chanson, évidemment. Et quand on voit la pérennité de cette chanson, je crois qu'il ne s'est pas trompé. Et c'est des artistes de tous bords politiques. Et chaque artiste va amener son public Et ça aussi, ça a énormément aidé les restos à décoller, c'est évident.
Alors les restos décollent, peut-être trop d'ailleurs, parce que c'est toujours le paradoxe avec les restos du cœur, on ne peut jamais se féliciter du succès des restos du cœur, mais enfin c'est ainsi à la fin des années 80. Après, il faut pérenniser les restos du cœur, votre père disparaît quelques mois plus tard, et il y a cette bataille qui est menée, qu'il avait commencé à mener, pour la loi Coluche.
C'est ça.
Pour pouvoir défiscaliser les dons qu'on fait à des associations caritatives, humanitaires, comme les Restos du Cœur ou d'autres. Ça a été un long combat aussi, qui n'est peut-être pas terminé, d'ailleurs.
Ça n'a pas été un si long combat que ça, parce que lui, il a demandé à ce qu'on vote cette loi en 86, à la fin de la première campagne, voilà, qui a duré un hiver, 85-86. Et elle a été votée en 89. Donc c'est relativement rapide, on va dire, pour une loi qui émane d'un mouvement populaire et pas des députés ou du Sénat. Pour la petite histoire, Alain Juppé, qui avait été ministre du budget avant Michel Charras, a toujours dit que c'était son grand regret de ne pas l'avoir fait. Voilà, je le cite.
Ouais.
Et là aussi, il y a eu une unanimité pour voter cette loi. Et depuis, tous les présidents de la République ont toujours rehaussé le niveau de don qu'on peut faire grâce à cette loi. Et donc, c'est très simple. Si vous donniez avant 100 euros et que vous n'utilisiez pas la loi Coluche, vous donniez 100 euros, on touchait 100 euros, et voilà. Si vous donnez 200 euros et que vous utilisez la loi Coluche, il faut être imposable pour ça, on vous en remboursera 90 en janvier, 60 en septembre, et vous aurez fait un plus gros don au Resto du Cœur, nous, on aura touché 200, et vous, vous aurez payé moins cher. Voilà, c'est à ça que ça sert la loi Coluche, ça s'appelle l'effet de levier.
Et sans cette loi, il n'y aurait plus de Restos du Cœur ?
Pas que les Restos du Cœur, elles bénéficient à toutes les associations reconnues d'utilité publique. Les Restos du Cœur ont été la locomotive qui ont permis de faire voter la loi, mais toutes les associations reconnues d'utilité publique, aujourd'hui, bénéficient de cette même loi, en tout cas dans le domaine alimentaire.
Après la disparition de votre père, c'est votre mère qui va reprendre le flambeau. Je voudrais qu'on l'écoute, c'est en 1989.
Avec plaisir.
Question posée par le journaliste. Êtes-vous rodé ?
Rodé, non, je dirais jamais. On peut être efficace, ça c'est sûr. On peut pas être rodé au fait de côtoyer la grande misère, parce que c'est ça qu'on voit. Donc, on a beaucoup d'entrain, on est des milliers de bénévoles, c'est vrai, mais c'est encore chaque année un pari insensé qu'on essaye de tenir, qu'on essaye de faire que les gens qu'on rencontre soient le moins possible dans la misère et qu'on puisse les aider, oui, c'est sûr.
Je la rejoins totalement sur ce qu'elle dit. C'est un miracle qui se reproduit chaque année, les Restos du Cœur. Je pense qu'en France, on ne mesure pas forcément à quel point on a la chance d'avoir une association aussi solide, aussi forte et qui dure depuis aussi longtemps. Et c'est vrai que chaque année, on se dit... Ça serait mieux si on fermait, ça serait mieux s'il n'y avait plus personne à nourrir, si ce besoin n'existait plus. Mais par quoi vous voudriez remplacer les Restos du Cœur aujourd'hui si on fermait ? Moi, je veux bien, mais la chance qu'on a, c'est qu'on fonctionne sur la gratuité, la générosité et l'indépendance. Notre culture, notre objet, notre ADN, c'est de recevoir les gens, c'est l'accueil des gens. Notre objectif, c'est qu'ils repartent avec un panier plein et un sourire. Et je veux bien croire que c'est pas le meilleur des mondes, les Restos du Cœur, et il y a de l'imperfection. Mais honnêtement, on a beaucoup, beaucoup de chance d'avoir ça aujourd'hui.
Votre maman a été présidente de 1998 à 2003. Ça a été lourd à porter pour elle, cet héritage-là.
Ça n'a pas été évident, mais elle l'a fait bravement et bien, je crois. C'est quand même une force vive extraordinaire, le bénévolat en France. Moi, je dis c'est une force industrielle. Et il faudrait que les politiques nous considèrent comme tels, en fait.
Vous considérez comme un bénévole, vous l'êtes d'ailleurs.
Bah tiens.
Au Resto du Cœur. Vous aimez rencontrer les bénévoles, c'est ce que vous faites, en fait.
Ouais.
C'est
ouais.
Votre boulot, en quelque sorte. Vous faites
oui.
La tournée des centres.
Oui, c'est
en
ça,
France.
Ouais.
Est-ce que vous êtes toujours surpris de l'accueil qui vous est réservé ?
Oui. Oui, parce que évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont encore là, de la génération Coluche, qui l'ont connu, qui auraient aimé le rencontrer, qui sont contents de voir son fils et qui ont des sourires et des paillettes dans les yeux, Kevin. Il me fascine totalement, les bénévoles, encore une fois. C'est comment je peux vous dire ça ? Mais ils donnent tellement de temps, ils donnent tellement d'énergie. Quand les gens sont dans la misère... Ils font tout ce qu'ils peuvent pour les sortir. Ils font pas que le panier de repas. Bien sûr, c'est la priorité, c'est la porte d'entrée vers la personne accueillie. Mais derrière, on s'enquiert de leurs droits. Est-ce qu'il y a des droits qu'on peut vous aider à trouver ? Est-ce que il vous faut des vêtements ? Est-ce que les enfants, vous avez besoin de cours de cuisine pour les enfants ? Enfin, on essaye tout. Et ils sont complètement dingues, quoi.
Si vous aviez un appel à lancer
du fric. Si j'avais un appel à lancer aujourd'hui, si vous avez du temps, venez, devenez bénévole. Si vous avez de l'argent, donnez, faites un don. Et si vous avez les deux, c'est encore mieux.
Et si vous écoutez la radio, c'est encore mieux. Cet appel, il a été lancé à la radio. Et il y a Radio Resto.
Ouais, voilà.
À partir de ce soir et tout le week-end. Vous pouvez nous en rappeler le principe très rapidement?
C'est une radio qui s'écoute en podcast. Le monde de la radio qui vient faire des émissions qu'ils n'ont jamais faites ensemble parce qu'ils appartiennent à différentes stations. Et là, ils se réunissent tous pour faire des émissions inédites sur un week-end. Ça dure 48 heures. Ça commence vendredi soir. Ça finit dimanche soir à 20h.
C'est un héritage. Est-ce qu'il est lourd à porter?
Non, c'est le plus bel héritage que mes parents m'aient laissé. C'est évident. C'est évident. Et je crois que c'est un héritage qu'on partage avec tous les Françaises, toutes les Françaises et tous les Français. Parce que c'est comme ça que ça a été créé dès le départ. De ne dépendre d'aucune église ni d'aucun parti. Et d'être complètement... en symbiose avec le public. Et je crois que c'est ce qui a fonctionné parce que je pense que c'est une des associations préférées des Français aujourd'hui encore.
Voilà notre entretien avec Romain Colucci, enregistré il y a quelques heures grâce aux moyens techniques de Florent Bujon. Vous le retrouvez sur l'application Radio France. 13h45 sur Inter. Une semaine dans la vie d'un chantier, d'un autre monument. Celui-là, c'est la basilique Saint-Denis qui est en travaux depuis mars pour retrouver sa flèche et sa tour nord, projet de 37 millions d'euros. Alors tous ceux qui sont attachés à Saint-Denis et à sa basilique tombeau des rois de France se mobilisent. Ainsi, le rappeur MC Solar, né au Sénégal, parent de Tchadien, arrivé en France à l'âge de 6 mois, à Saint-Denis, qui a été la première ville d'accueil de sa famille. Il a même donné deux concerts à la basilique.
Je suis né à l'hôpital Le Dantec à Dakar. Et puis, on a traversé, on est arrivé en Europe. On a atterri rue de la Faisanderie. On a été hébergé à l'ambassade du Tchad pendant un certain moment, jusqu'à ce qu'on trouve un foyer dans la ville de Saint-Denis. Donc, Saint-Denis, c'est la ville d'accueil. C'est mes premiers souvenirs d'enfance. Saint-Denis, c'est une ville cruciale pour moi. Je m'appelle Claude MC Solar.
Je suis place de trêve et pique ton cœur, Caroline.
Je suis un chanteur, rappeur, quelquefois compositeur, et puis quelquefois un poète. J'étais un étudiant, moi, de Jussieu, mais il y avait ces cours à Saint-Denis, avec Georges Lapassade, Desdemone Bardin, Monsieur Lemonnier, et j'ai appris beaucoup sur l'histoire du rap, c'était de l'ethnologie. Donc je faisais des cours supplémentaires parce que j'aimais bien tout ce qui avait rapport avec la création de mouvements hip-hop. Il y avait ça là-bas, à Saint-Denis. Pour moi, la basilique, c'était la Mecque des grands taggeurs. Moi, j'étais pas un taggeur, mais c'était une station. C'était le rendez-vous à basilique. Et les gens, ils faisaient un aller-retour pour mettre leur nom dans les rames de métro. La fameuse ligne 13 où il fallait être vu quand on voulait mettre son nom. À l'époque, je ne m'intéressais pas, malheureusement, à cette basilique invisible, parce qu'on était à Saint-Denis, mais on ne savait pas qu'il y avait une basilique. J'ai chanté deux fois à Saint-Denis. La première fois, c'était sous la forme d'un big band. Alors j'étais impressionné, et nous étions impressionnés par les lieux, par l'histoire, par la visite que j'ai pu faire, et par ce que nous a raconté notre guide. Donc on avait l'envie de bien faire.
Du père, du fils et de Claude MC, Solar vous invite dans les rap parties. Car je suis un MC d'attaque, sans authentique, pas en toque. Prêt à frapper, c'est le mec pour le mouvement hip-hop.
Et puis la deuxième fois, c'était dans une session beaucoup plus acoustique pour dire qu'il faut faire quelque chose pour Saint-Denis, pour la basilique, pour la flèche. Et donc, j'ai eu une certaine responsabilité dans le timbre de ma voix. Je me suis dit qu'il ne fallait pas d'égo-trip, il ne fallait pas montrer du muscle et faire le rappeur, interpréter les choses différemment, parce que la cause est noble, la cause est juste. Et puis, ils étaient là pour dire que... qu'ils avaient besoin de moyens, quoi. Je me sens proche, finalement, de cette basilique de Saint-Denis. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, depuis mon enfance, un double traitement, deux standards. On disait toujours la Seine-Saint-Denis, que c'est une banlieue qui a besoin d'aide. Et puis elle se transforme là depuis 20 ans, 25 ans, avec le Stade de France, avec plein de choses. Et il faut que ça continue. Et donc les habitants de Saint-Denis sont très 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 motivés. Il y a des campagnes pour que l'individu lambda fasse des dons. Mais si on pouvait avoir l'aide de mécènes pour cette ville, c'est-à-dire être comme Paris, ce serait bien pour accélérer les choses, pour que le fardeau soit moins lourd à porter. parce que sinon là, on verrait réellement qu'il y a un traitement totalement différent parce qu'on n'est pas du centre de la capitale. Ça ne veut pas dire que Notre-Dame, on ne devait pas l'aider, mais c'était au niveau mondial hein, pour Notre-Dame. Ce serait bien de faire pour Saint-Denis. Alors, un, pour l'ouverture de cette basilique, deux, pour le patrimoine et les rois de France, et trois, je sais pas, pour dans un geste d'égalité. Et puis on parle tellement du Grand Paris qu'il faut faire quelque chose pour Saint-Denis. C'est une belle entrée vers la capitale.
Une semaine dans la vie de la basilique Saint-Denis, feuilleton signé Cécilia Arbona, réalisation Vincent Godard. Vous retrouvez tous les épisodes sur notre application. Et puis je vous signale aussi que ce week-end, c'est la réouverture de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes, 5 ans après l'incendie.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le vendredi 13h49, la France des cimes et des océans, avec Virginie Troussier. Aujourd'hui, Virginie, vous nous emmenez au cœur du massif du Mercantour, dans les Alpes-Maritimes, à la découverte d'un lieu qui nous invite à renouer avec la montagne.
C'est la fin de l'été et donc celle des grandes randonnées. De nombreux refuges alpins ferment leurs portes ce week-end. Parmi eux, l'hôtel des Pèlerins, au cœur du parc national du Mercantour, tout près des sommets de la Haute Vésubie. Perché à 1904 mètres d'altitude, au pied du Gélas, le plus haut sommet des Alpes-Maritimes, il se trouve sur le site millénaire de la Madone de Fenestre. Ce sanctuaire rassemble une église du Moyen-Âge, des bâtiments de l'évêché, un refuge du club alpin et l'hôtel des pèlerins. Longtemps, on y accédait qu'à pied, par un chemin muletier, et les nombreux pèlerins s'y retrouvaient chaque été. En 1958, c'est un tournant, une route de 11 km est ouverte depuis le village de Saint-Martin-Vésubie, permettant pour la première fois d'y monter en voiture.
Et en quoi ce lieu est-il devenu particulier ?
Le vallon de Fenestre a été ravagé par la tempête Alex le 2 octobre 2020. En 24 heures, il est tombé l'équivalent d'une année de pluie. Les pentes se sont effondrées, les arbres ont été arrachés, les roches entraînées par les eaux. Le paysage est devenu méconnaissable, impraticable. Le chemin muletier a disparu et la route a été détruite. Si le refuge du club alpin a continué d'accueillir des randonneurs, l'hôtel, lui, est resté fermé jusqu'à cet été.
Et donc, qu'est-ce qui a rendu possible sa réouverture, 5 ans après ce début de silence ?
Chaque abri en montagne est singulier par la présence de ceux qui lui donnent son âme, les gardiens. Solitaires mais hospitaliers, ils ont un tel goût du présent qu'ils ne l'échangeraient pour rien au monde contre l'air du temps. Jamais ils ne s'échappent de leur bâtisse, même par grand beau, mais leur contemplation n'est pas immobile. Elle est concentration, observation du monde et de ses métamorphoses. Caroline Audibert est la gardienne que l'association des pèlerins de Notre-Dame de Fenestre a choisie pour redonner vie à l'hôtel. C'est une femme du pays, petite fille et fille de gardien du Mercantour et autrice de romans et d'essais sur le monde sauvage. Elle m'a confié qu'elle n'aurait jamais accepté cette mission si la route avait été ouverte, connaissant les dérives urbaines d'une montagne trop facile. Cette route est souvent considérée comme l'unique moyen d'atteindre le site, alors qu'il existe de jolis sentiers. Comme le dit Caroline Audibert, aller sur les lieux rares ne doit-il pas redevenir une aventure ? Ne faut-il pas repenser nos modes d'accès face au bouleversement climatique qui s'intensifie ?
Et comment est-ce qu'elle organise la vie là-haut ?
Caroline Audibert a vécu ce gardiennage comme une façon de réparer les lieux. Il fallait, selon elle, apprendre à les réaimer. Elle a raconté aux randonneurs l'histoire du site, elle y a établi une petite librairie des cimes, elle a préparé des soupes à l'ortie, donné à voir les animaux désormais partout présents, jusque sous les fenêtres. L'énergie solaire a suffi à faire tourner le refuge et le ravitaillement s'est organisé grâce à des producteurs locaux. La route est fermée, la nature a repris ses droits, l'hôtel des pèlerins devient un lieu pour habiter le réensauvagement plutôt que le craindre. Car qu'est-ce qu'un refuge au fond ? Un espace de simplicité, une soif de vivre autrement. Il n'est pas seulement un abri, c'est un lieu pour voir et écouter. Il ouvre la rencontre avec soi-même, avec les autres, avec le dehors. Un refuge nous repositionne face à la nature et quand ses portes se ferment pour la saison, quand vient le temps de redescendre dans la vallée, on découvre que le vent, lui, s'est enraciné en nous.
On y accède donc à pied. 1h30 de marche et l'hôtel des pèlerins est à vous. Merci Virginie Troussier, chaque vendredi dans C'est la France. C'est une chanson, c'est un jazzman que l'on retrouve à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier, l'accordéoniste Vincent Perani.
Il sort aujourd'hui même un nouvel album, Living Being 4 Time Reflections, qu'il présentera notamment le 21 janvier à la Cigale à Paris. Et c'est de Claude Nougaro qu'il a souhaité parler, un chanteur qu'il a découvert grâce à son père.
Nougaro, c'était un de ses chanteurs préférés, donc dès le plus jeune âge, Il y avait les chansons, que ce soit avec la voix des années 60 ou la voix un peu plus moderne. Donc voilà, c'est vraiment un univers, moi, que je connais beaucoup. Et pour être tout à fait honnête, je pense que ça fait partie des seuls, des rares même chanteurs où j'arrive à entendre les paroles.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'en fait, j'ai une déformation de musicien qui peut être un avantage, c'est-à-dire que j'entends les notes. Hein, voilà, donc on appelle ça l'oreille absolue. Du coup, moi, quand j'écoute de la musique, en fait, je me fais mitrailler à l'intérieur de ma tête par des notes dans tous les sens. Et donc, ce qui fait que les mots, naturellement, j'arrive pas, en fait. Mais Nougaro, je sais pas, voilà, c'est certainement... Alors, il y a des histoires, je pense, de fréquence, de timbre, de hauteur. Nougaro fait que je connais les chansons, quoi. Je sais de quoi ça parle.
Dans une ferme du Poitou, un coq émet une pendule. Tous les goûts sont dans la nature. D'ailleurs, ce coq avait bon goût, car la pendule était fort belle, et son tic-tac si doux, que le temps ne pensait surtout qu'à passer son temps auprès d'elle. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule, de l'aube jusqu'au crépuscule, et même la nuit comme un hibou. L'amour le rendant coctambule, des cocoricots plein le cou, le coq rêvait à sa pendule du Poitou.
Cette chanson, Frédéric, c'est donc Le coq et la pendule.
Année de sortie 1980, l'année de naissance de Vincent Perani.
Moi, c'est une chanson qui m'a marqué dès mon plus jeune âge, en fait, parce que j'ai l'impression que c'était une fable de La Fontaine. Et puis, il y a plusieurs lectures, en fait. En étant enfant, en fait, voilà, bah, on imagine ce coq qui est amoureux de cette pendule. Bon, bah, oui, en fait, et on se prend l'histoire comme ça, voilà, bah, c'est un peu fantaisiste, etc. Et il y a un côté très rigolo, toujours plein de poésie, plein d'humour, en fait, de la part de Nougaro.
Texte surréaliste à première vue.
Complètement. Et puis, un peu plus tard, voilà, en grandissant, c'est un peu une réflexion sur le temps. Avec le coq, voilà, qui chante chaque jour qui passe, voilà, le côté un nouveau jour qui commence, le soleil se lève, je sais pas, c'est un peu une renaissance perpétuelle. Donc quelque chose d'assez organique, on va dire un temps un peu bio. Et de l'autre côté, on a le tic-tac, voilà, de l'horloge, une invention de l'homme. Voilà, le temps qu'on pense qu'on va contrôler. Et la conclusion, finalement, c'est que bah, le temps nous rattrapera toujours, puisque à la fin, bah, le coq se fait manger.
Ah, voilà. C'était ma petite version pour le coq et la pendule.
Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Ah, mesdames, vous parlez d'un Jules, le voilà qui chante à genoux.
L'histoire dit que cette chanson, Nougaro l'a écrite en pensant à son pianiste, Maurice Vander.
C'est lui qui a signé la musique d'ailleurs.
Que Nougaro appelait le coq.
Coq.
Et qui était marié avec une femme suisse, d'où la pendule.
Ah, ça je savais pas, d'accord, ok. Okay. Mais la fin est spéciale alors du coup. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par Cocovin ? J'étais plus par rapport à cette histoire de temps, en fait, qui devient un peu une obsession, je crois. Mais l'amour aussi, hein, finalement.
Vous avez l'impression de courir après le temps ?
C'est pas qu'une impression, hein, je dors très très peu. Parce que j'ai toujours envie de faire des choses, j'ai une espèce de passion pour l'éveil, j'ai envie de dire. Même si le repos et le sommeil sont importants, mais voilà, je pense que je cours un petit peu moins vite qu'avant, mais je pense que je vais courir jusqu'au bout, quoi. Ça c'est sûr. Après quoi, ça je sais pas. Je vais pas courir après ma jeunesse en tout cas, voilà.
Elle vous ramène à votre jeunesse, cette chanson ?
Ah oui, oui. Même de manière générale, Nougaro me ramène à ma jeunesse, et cette chanson en particulier... Le coq, la pendule, tout petit, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte comme histoire ? Et en fait, je me suis laissé emporter là-dedans, quoi, en fait. Donc, dans cet imaginaire, et ça m'a aussi dit, mais oui, tout est possible, en fait.
Tout est possible, la poésie permet tout.
Tout est possible, exactement. Mais bon, comme le dit la fable, à la fin, c'est la pendule qui reste.
La pendule sonne l'heure du repas, coq au vin, coq au vin. Une ferme du Poitou, cocorico, un coq aimait une pendule.
Le coq et la pendule, Claude Nougaro. C'était donc, Frédéric, le choix de l'accordéoniste Vincent Perani.
Vincent Perani, qui sera d'ailleurs en concert ce soir et demain soir au Duc des Lombards à Paris.
Merci Frédéric, et à lundi. Je ne sais pas où est le coq, mais la pendule de 14h approche, alors il est l'heure de nos remerciements à la rédaction en chef cette semaine, Estelle Schmitt, Cécilia Arbona et Lionel Thompson, assisté de Fabien Etchekopar, Rachid Zourdani, Souad Bellani, Stéphane Rousset, Joseph Ascal et Nicolas Sabat.
à la technique Mélissa Etroit, Gilles Gaillard et Sofiane Actib, notre chargée de programme Camille Poux-Jalaguet, sans oublier nos standardistes, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan à suivre.